Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 3. Je suis content de vous retrouver sur Internet. Que Dieu vous bénisse. On est tous contents?
Amen.
Ils sont tous très très contents. Bien, nous lisons. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait. La maison se remplit de fumée. Amen.
Je vais vous asseoir.
Ésaïe a une vision du Seigneur. Du Seigneur assis sur un trône élevé. Et il nous est dit que les pans de la robe de Dieu remplissaient le temple. Et il y avait des séraphins qui volaient au-dessus. Et la vision spirituelle se superpose avec ce qu'Ésaïe voit de la réalité terrestre, de la réalité créée. Il voit le temple. Le temple ne s'est pas effacé. Il voit le temple. Mais dans le temple, il voit les pans de la robe de Dieu. Il n'y a plus de plafond. Il voit le trône élevé de Dieu et les pans de la robe qui remplissent le temple. C'est-à-dire... il est dans le lieu saint, le lieu très saint. Il est là. Et Ésaïe voit aussi des séraphins. Alors le mot séraphin vient d'un mot hébreu, séraph, qui signifie brûler. Vous savez, quand Moïse parlait des serpents brûlants, eh bien, il a employé le mot séraph. Séraphin, serpent volant du désert, on trouve aussi cela ailleurs. Et dans le livre de Moïse, dans le Pentateuque. Mais là, ils apparaissent comme des êtres surnaturels. Comme des héros, des messagers de Dieu. Et les séraphins crient l'un à l'autre. Ils ne crient pas à Ésaïe ou ils ne crient pas à Dieu, mais l'un à l'autre, ils crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Mais parce que c'est ce qu'ils voient. C'est ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils voient. Et mes frères et sœurs, seul un regard spirituel peut nous permettre de voir cela. Quand vous n'avez que la vision du terrestre, vous ne voyez pas que toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Avec seulement la vision terrestre, avec seulement le regard de nos yeux de chair, quand vos yeux ne sont pas ouverts, quand vos yeux spirituels ne sont pas ouverts, quand vous vous contentez de regarder seulement ce que vous voyez, de ce que vous pouvez toucher, quand ce sont seulement vos sens, quand le ciel n'est pas ouvert pour vous, eh bien, vous ne voyez que le temple, vous ne voyez que les gens du monde, vous ne voyez que vos frères et sœurs, vous ne voyez que le sanctuaire, vous ne voyez que votre patron, vous ne voyez que... voilà. Ésaïe, en entrant dans le temple, ne voyait que le temple. Mais tout à coup, quelque chose s'est passé. Il venait de franchir la porte, une porte bien réelle. Il avait laissé derrière lui des prêtres, bien réels, des vrais prêtres, des vrais gens. On saisit un petit peu, parmi ces prêtres, il y avait des gens qui étaient consacrés, il y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait des gens qui étaient moins consacrés, il y en avait qui étaient des véritables charnels. Certains étaient paresseux, certains étaient médisants, certains étaient les deux. Il y en avait plusieurs qui volaient dans la caisse, il y avait toutes sortes de choses. Plusieurs ne faisaient que leur devoir. Il fallait faire ça, alors ils le faisaient, mais sans grande joie, sans don de leur vie, comme on dit. Et ils ne prenaient plus à cœur de servir avec joie dans le temple, avec empressement dans le temple de Dieu. Ils faisaient leur boulot, leur train-train, voilà, telle heure je commence, telle heure je finis, il ne faut pas m'embêter, je décroche mon téléphone. Vous voyez? Ils avaient pris l'habitude de servir dans le temple. Quand ils étaient plus jeunes, ils voulaient absolument servir dans le temple. Ils avaient un idéal, c'était merveilleux. Puis une fois là, le temps passait. Puis mais ils sont habitués, ils étaient là dans le temple. Ésaïe avait franchi la porte du lieu saint, laissant derrière lui donc ses prêtres, mais aussi des gens qu'il aimait, mais qui étaient loin de le valoir lui. Il avait aussi laissé derrière lui le peuple qui grouillait dans le parvis du temple, peuple plein d'espoir, peuple plein de désespérance, un peuple normal. Et plus loin encore, hors du temple, Ésaïe avait laissé derrière lui Israël. Israël, avec celui qu'on connaît, qui est toujours un peu le même, au cou raide, des gens très souvent incrédules. Ou simplement, il avait laissé des gens derrière lui, des gens occupés à toutes sortes d'autres choses. Légitimement, ils s'occupaient de toutes sortes d'autres choses. Ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas dans le temple. Et tout ça, c'était bien réel. Et rien de tout cela ne semblait être rempli de la gloire de Dieu. Ésaïe s'avançait. Lui, il s'avançait conscient de la présence de Dieu, craignant Dieu dans son cœur. Et soudain, le surnaturel s'est mélangé au naturel. Tout à coup, les parois du fond du temple ont laissé la place à quelque chose qu'Ésaïe n'avait jamais vu. Le plafond s'est évanoui. Dieu se tenait là, sur un trône élevé. Dieu était là. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et les séraphins, ces êtres si étranges, criaient « Gloire, gloire, saint, saint, saint l'Éternel !» La gloire de Dieu remplit toute la terre. Les séraphins criaient ça en contemplant la terre. La terre qu'Ésaïe avait laissée derrière lui en entrant dans le temple. En contemplant cette terre-là, il criait « La gloire de Dieu remplit toute la terre. La terre, l'œuvre de Dieu. » Et eux, ils la voient remplie de la gloire de Dieu. Oh, quand vous regardez autour de vous, avec vos yeux de chair, vous ne voyez pas beaucoup la gloire de Dieu sur la terre. Hein? Moi, je reviens d'Égypte et tous les frères et sœurs, les uns après les autres, parce que je ne vous ai pas rencontrés en masse, hein, je vous ai rencontrés un dans le corridor, l'autre sur le perron, un à la cuisine, un dans les escaliers, un dans le salon, voilà, un peu partout. Depuis que je suis rentré d'Égypte, les frères et sœurs me demandent tous « Alors, l'Égypte, c'est beau ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? C'est moche, ça pue, c'est sale, c'est pauvre. » Voilà, moi, c'est ce que j'ai vu. Bon, il y avait un hôtel 5 étoiles avec des dorures comme Marc M. mais je pensais à ma vision. Moche, sale, pauvre. Il y a les tombeaux, il y a toutes ces merveilles, c'est sûr, mais bon. Et pourtant, les séraphins, quand ils regardent l'Égypte, ils la voient remplie de la gloire de Dieu. Alors, qui a faux ? Ben, c'est moi qui ai tout faux, frères et sœurs. C'est moi qui ai tout faux. Parce que mon regard n'est pas le bon regard. Dieu et les êtres célestes, ils voient hors du temps. Ils voient autrement que nous. Ils voient au travers du sang de Jésus-Christ. Vous allez me dire, oui, mais Ésaïe, c'était 740 ans avant Jésus-Christ. Alors, tu peux nous raconter tout ce que tu veux. Que les séraphins voient la terre au travers du sang de Jésus, ça, on ne te croit pas, parce que Ésaïe, c'était 740 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, là, vous avez faux aussi. Il faut que vous changiez votre regard. Bien sûr que les séraphins pouvaient voir la terre au travers du sang de Jésus-Christ 740 ans avant. Comment cela pouvait-il être possible? Eh bien, Apocalypse 13, 8 nous l'apprend. L'agneau de Dieu dans le spirituel, a été immolé dès la fondation du monde. C'était déjà fait. Oh oui, mais alors, moi je ne crois pas à la prédestination, je ne crois pas. C'est déjà fait. Ce n'est même pas que c'est écrit pour que ça arrive, c'est déjà fait. Pensez-y, c'est déjà fait. Jésus mort sur la croix il y a 2000 ans, oui, oui, d'accord, c'est vrai, dans la réalité terrestre, là, sur cette terre. Mais en réalité, Jésus a été immolé, l'agneau a été immolé, dès la fondation du monde. Et les séraphins regardaient la réalité spirituelle, la seule, la vraie. Ils voient le monde réel, bien matériel, mais ils le voient au travers du sang de Jésus. C'est ça le regard spirituel. Purifié, rempli de la gloire de Dieu. Pensez-y. Je vous parle plus de l'Égypte. Je vous parle plus du Burkina Faso, parce que c'est kiff-kiff, hein. Je vous parle de ce que vous voyez chaque jour, frères et sœurs. Vos frères et sœurs, comment les voyez-vous? Couverts par le sang de Jésus? Purifiés? Remplis de la gloire de Dieu? Ou plein d'imperfections? Bon, il est certain que nous avons des progrès à faire, qu'il y a un perfectionnement en cours. Mais frères et sœurs, si je regarde attentivement l'enseignement de Jésus-Christ, Nos yeux, nous dit-il, sont des lampes. Vous trouvez ça dans Matthieu 6, 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres ? Alors je vais vous donner le mot scientifique que les médecins actuels ont donné à ces ténèbres. Ils appellent ça des maladies psychosomatiques. Ça vient de ton regard, de ta façon de regarder. Tu ne regardes que ce que tu vois, tu n'entends que ce qui peut être entendu avec la chair, et ça te rend malade. Arrête de regarder comme ça. Arrête. Bien sûr que tu es obligé de regarder comme ça, parce qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans un trou quand on marche. Les trous sont bien réels, il y a bien des choses difficiles à vivre, il faut bien avoir un regard. Mais il faut que le surnaturel couvre le naturel. Il faut que ton regard soit spirituel. Il faut que tu vois comme Dieu voit. Tu me diras, mais moi, je vois, je vis dans la réalité. Michel, tu es un doux rêveur. Tu ne te rends pas compte de la réalité. Il y en a qui me disent ça. Mais Michel, tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Tu ne vois rien. Là, tu es dans ton bureau, en prière, avec tes livres, tout ça. Tu ne sais même pas ce qui se passe ici. Eh bien, mes frères et sœurs, j'ai choisi la bonne part. Jésus est ma lumière. Et ce n'est pas une phrase vaine. La lumière a brillé dans mes ténèbres et mes ténèbres l'ont accueillie. Jean 1, 5. Le vrai verset de Jean 1, 5, c'est « La lumière a brillé dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Moi, mes ténèbres l'ont reçue. Alors, accueillez Jésus. Accueillez la lumière. Accueillez la lumière du monde, Jésus. C'est-à-dire, jugez de tout dans la réalité, mais avec compassion, avec amour. Avec gentillesse. C'est aussi comme ça que je crois vous avoir prêché Jésus depuis le début, disant qu'il est doux et humble de cœur, lent à la colère, miséricordieux, n'éteignant pas le lumignon qui fume. Je vous ai parlé d'un Jésus qui vous accepte comme ayant encore beaucoup de progrès à faire et qui ne vous punit pas selon vos iniquités. Ça, tout ça, c'est des choses qui sont écrites, que je vous enseigne depuis des années et des années. Jésus ne vous boude pas. Jésus ne se réjouit pas du mal qui peut vous arriver ou qui arriverait aux autres. Et je vous ai aussi enseigné qu'il se souvient d'où vous venez. Est-ce que vous vous souvenez d'où vous venez? Alors, souvenez-vous d'où vous venez. Ok, d'accord. Souvenez-vous d'où vient votre frère, votre sœur. Voyez le regard. Regarde sur le frère, sur la sœur. Il est aussi celui qui n'entretient pas d'amertume dans son cœur à cause de tous les mauvais traits de caractère que nous avons. Et cela à répétition. Ça fait 50 fois toujours la même chose. Oui, mais Jésus nous a dit, ton frère, s'il vient vers toi après avoir péché 7 fois, 77 fois par jour, je ne sais plus exactement le terme, ça veut dire à l'infini, puis qu'il te... Eh bien, tu dois pardonner. C'est ça, accueillir la lumière. C'est pas dire, oh Jésus, je t'aime, viens dans mon cœur, merci Seigneur, tu habites dans mon cœur. Non, s'il habite dans ton cœur, tu commences à regarder comme lui regarde. C'est lui qui regarde au travers de toi. C'est plus toi qui regardes, c'est Jésus qui regarde au travers de toi. Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il nous voit purs. Et les séraphins nous voient purs, remplis de la gloire de Dieu. Et cette vision, c'est celle-là qui doit primer dans notre vie. Pas un temple vide, mais un temple rempli des pans de la robe de Dieu. Amen. La vision du temple, la vision du sanctuaire, la vision du sanctuaire doit être bien réelle et il y a beaucoup de choses à faire encore dans ce sanctuaire fendu. Mais nous devons avoir cette vision aussi, comme celle du temple qui restait bien réelle aux yeux des animes et qui... Mais il y voyait les pans de la robe de Dieu, il y voyait la gloire de Dieu qui remplissait le sanctuaire. Ésaïe voyait plus que le domaine temporel du temple, il voyait le temple rempli des pans de la robe de Dieu. Comment est-ce que vous voyez le sanctuaire? Comment est-ce que vous voyez le sanctuaire après 25, combien ça fait? Bientôt 30 ans qu'on vit en communauté. Alors que vos yeux, que mes yeux, que nos yeux soient illuminés, afin que tout notre corps soit dans la lumière. c'est-à-dire dans le repos de Dieu, dans le calme de Dieu, dans la paix de Dieu. La Bible nous dit « Ayez la foi de Jésus », la même sorte de foi, un regard de foi sur vos frères et sœurs. Ésaïe, en voyant ça, il a eu peur. Il a eu peur parce qu'il a réalisé que son regard n'était pas celui de Dieu. Et il crie « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Vous voyez, comme vous, comme moi, Ésaïe mesure son impureté face à Dieu. Mais Dieu le rassure. Dieu le rassure en lui disant que sa faute est enlevée et que son péché est expié, au verset 5. Mon frère, ma sœur, ta faute est enlevée. Ton péché est expié. Mais pas seulement le tien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mon péché est enlevé, ma faute est expiée. Super, gloire à Dieu, la gloire de Dieu. Oh, merci Seigneur. Oui, mais pas seulement la tienne. La bonne nouvelle, c'est que la faute de ton frère, la faute de ta sœur aussi. Alors, regarde-toi comme aimé de Dieu et regarde les autres comme tu te regardes, aimé de Dieu. Pourquoi vous croyez que je prêche ça? Parce que j'en ai besoin. Parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de ça. Avez-vous besoin de ça? Moi, j'ai besoin de ça. Ce regard te rendra comme Dieu. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Comment? En ayant ce regard-là. Tu deviendras comme Dieu, c'est-à-dire patient, c'est-à-dire lent à la colère, c'est-à-dire miséricordieux, c'est-à-dire doux et humble de cœur. Est-ce que ce n'est pas de cela dont nous avons besoin dans notre secte dangereuse? Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'être remplis de la lumière de Dieu. Pas que nous ne l'ayons pas du tout. Elle est là. Mais il faut que nous la voyons. Il faut que vous la voyez. Il faut que tu dises, je dois voir. Je dois voir la gloire de Dieu remplir le temple, remplir le sanctuaire. Je dois voir les pans de Dieu remplir le temple. Je dois le voir. Seigneur, je veux voir comme ça. Je veux arrêter de regarder avec seulement mes yeux de la chair. Tu dois dire à ton regard, convertis-toi maintenant. Il y avait un serviteur de Dieu qu'on connaît, un petit barbuchu, qui disait, moi, il y a mon porte-monnaie, il n'est pas converti. Eh bien, moi, je vous dis ce soir, il y a bien des regards qui ne sont pas convertis. Convertis ton regard. Dis à ton regard, convertis-toi au Seigneur maintenant. Change. Dis aussi à tes oreilles, entends la parole de Dieu maintenant. Dis à tes yeux, vois comme les séraphins voient. Que la communauté, que la terre est remplie de la gloire de Dieu. Il faut que tu vois ça, il faut que tu entendes ça. Et puis ensuite que tu comprennes avec ton cœur. Pas seulement avec la raison. À mon avis, il faudrait faire ci. À mon avis, ça serait comme ça. Mais pourquoi ce frère comme ci? Et pourquoi cette sœur fait comme ça? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Ça, c'est la raison. Et on a toutes sortes de bonnes raisons d'être raisonnablement, des fois, en rogne. Mais moi, le premier... Comprends avec ton cœur et sois guéri. Ça, vous trouvez tout ça au verset 10. Le regard, l'ouïe, la compréhension et la guérison. Tout ça se trouve dans ce texte. Alors, il y a quelques mois en arrière, un peu plus d'un an et demi, deux ans maintenant, je vous avais dit que Dieu me conduit plus haut et plus vite et qu'il fallait être prêt. Et vous avez vu qu'on a mis la vitesse supérieure, vous avez vu qu'on est de plus en plus... béni, on a de plus en plus de choses qui se produisent. Ceux qui veulent venir voir, vous pouvez venir voir. Les choses sont bien réelles et vous aurez votre récompense dans les cieux. Toutes les choses merveilleuses qui se passent, vous êtes partenaire de cela. Vous pouvez l'être encore davantage en y prenant encore plus part, pas seulement en donnant de l'argent pour que ça puisse se faire, mais en priant, en venant avec moi là-bas dans ces pays. Et il y a du travail pour tout le monde, croyez-moi. Nous y sommes, mes frères et sœurs. Ne restez pas le long du chemin. Convertissez-vous. Et marchons ensemble derrière la colonne de feu qui avance. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Tout le temple et toute la terre est remplie de sa gloire. C'est cela la vraie réalité. C'est ça la vraie réalité. Le système créé... il va bien être obligé, un de ces jours, d'entrer dans cette dimension. Pour le moment, il soupire après la manifestation des enfants de Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu et nous devons nous manifester. Comment ? En faisant ce que les séraphins font et disent. Saint est l'Éternel et la terre est remplie de sa gloire. Et nous allons et nous prophétisons, et nous allons et nous guérissons les malades, et nous allons et nous réconfortons ceux qui en ont besoin. Nous allons et nous faisons les choses au nom de Jésus, de la part de Jésus. Oui ou non ? Entrez-y. Ne restez pas en dehors de la vision de Dieu. Que notre vision soit la réalité du monde créé, remplie de la gloire de Dieu. Les deux dimensions se superposent. Le spirituel remplissant le matériel. Les pans de la robe de Dieu remplissaient le temple. Et appliquons-nous à faire, à partir de cette vision, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Mais ce n'est que ça, frères et sœurs. C'est d'avoir le regard de Dieu pour faire les actions justes de Dieu. Avec joie et simplicité. Amen. Merci Jésus pour ce message que tu m'as inspiré durant toute cette semaine, que j'ai déjà effleuré pendant les réunions de prière le matin. Merci Seigneur de bénir chacun d'entre nous. Moi en premier, j'ai besoin d'être toujours éclairé. Je te prie Seigneur Jésus que ton esprit vienne au secours de chacun d'entre nous afin que nous soyons de ces gens qui sont bien dans la réalité, qui voient bien la réalité, mais qu'ils la voient remplie de ta gloire, qu'ils la voient bénie, qu'ils la voient pure comme tu la vois pure, en progrès comme tu la vois en progrès. Merci Seigneur Jésus de nous donner de juger avec amour, avec gentillesse et dans le but de construire. Merci Seigneur d'enlever de nous toutes sortes d'amertume et aussi cette habitude de vivre dans le temple, cette habitude de vivre dans le sanctuaire, cette habitude. Je te remercie Seigneur pour tous ces voyages que j'ai pu faire et qui me donnent chaque fois que je rentre la possibilité d'éprouver cette joie de vivre ici avec mes frères et sœurs. Merci Seigneur, je te prie que mes frères et sœurs puissent s'en rendre compte et eux aussi vivre des choses de temps en temps fortes spirituellement à l'extérieur afin de pouvoir se réjouir de rentrer dans cette chose merveilleuse que tu as créée pour nous et pour qu'elle soit cette chose témoin dans ce monde qui est en train de se perdre, qui est à la recherche et qui soupire après la guérison. Merci Seigneur d'accorder la guérison aussi à ceux qui entendent ce message enregistré sur le net. Je te demande mon Dieu d'étendre ta main et de passer par-dessus tout le système technique mais de toucher le cœur et d'admettre ta paix là où il y a la tristesse, là où il y a la colère, là où il y a l'amertume, de mettre la tranquillité, de mettre le repos. Merci Seigneur Jésus d'exaucer ma prière. Merci Seigneur d'enlever tout stress, toute angoisse, d'enlever tout ce qui est fâcheux, afin que tous puissent voir ta gloire, afin de rentrer dans ta dimension, Jésus. Amen. Amen.
Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Dans le monde entier, comme le prophète l'a dit. Dans le monde entier, le Seigneur répand sa gloire. Le Seigneur répand.
Amen. Amen.